EMCI TV vous présente l'émission Teach avec Atoms. Un temps d'enseignement et d'étude de la parole de Dieu afin de faire de vous des disciples et vous aider à grandir dans votre foi.
Bienvenue sur Teach, votre émission d'enseignement et de maturité spirituelle. Cette émission a été conçue justement pour nous permettre de devenir des véritables disciples de Jésus-Christ. Je ne cesse jamais de répéter ces phrases. Pour quel but? C'est pour que ça reste dans notre esprit, ça devienne notre credo, qu'on se souvienne qu'on est là pour devenir disciples de Jésus-Christ. Et dans la vie d'un disciple de Jésus-Christ, dans sa sanctification personnelle et quotidienne, il y a un aspect qui n'en donne pas l'air, mais qui fait justement partie de notre sanctification personnelle. Préparez-vous à entendre ça. Il s'agit de nos finances. Ah oui, de nos finances. Alors, attention, je ne vais pas essayer de parler de vos finances, de ce que vous devez me donner ou donner à qui que ce soit. J'essaie de parler des finances, de comment Dieu voudrait que vous soyez un très bon intendant des ressources qu'il met entre vos mains. Comment utiliser ce qu'il vous a donné. Parce que souvent, nous rentrons vers Dieu en disant, « Seigneur, tu m'avais donné, Seigneur, donne-moi encore et encore. » Et alors, Dieu s'est dit, « Que fais-tu de ce que je te donne déjà ?» Au travers de cette série, on va découvrir ensemble comment devenir des bons gestionnaires des ressources que Dieu nous a données, matérielles, ressources financières, le potentiel humain, toutes les ressources que Dieu a mis entre nos mains, comment on peut bien les utiliser. Mais pour aujourd'hui, concentrons-nous sur des principes qui peuvent nous aider dans nos finances. Alors, let's teach. Grandissons ensemble. Quoique le sujet des finances semble être très, très humain, on se dit l'argent, les finances, la gestion de ressources financières, ça c'est nous, c'est l'homme. Dieu, il a que faire de ça. Détrompez-vous. L'homme n'a pas inventé juste le moyen de passer des échanges à l'absence de Dieu. C'est pas comme si Dieu n'était pas là, après il a sursauté et l'humanité et les Lydiens avaient créé la monnaie fiduciaire et ils avaient créé la monnaie métallique et puis les Chinois avaient créé la monnaie fiduciaire. Et c'est pas juste comme ça que Dieu s'est dit « Ah ben moi je savais pas qu'il y avait ces inventions ». Non, dans les transactions des êtres humains, des êtres humains et dans leur manière de passer les richesses d'un point à un autre, dépasser les possessions d'un point à un autre, d'obtenir ce qu'ils n'ont pas et donner aux autres ce qu'ils possèdent, ce système monétaire, rassurez-vous, hein, je ne donne pas un cours d'économie et d'économie monétaire ici, mais il y a ce besoin où j'ai une chose, mais j'en ai qui je manque. Et le voisin, il en a que des choses dont moi j'ai besoin. Donc, on peut trouver un moyen d'échanger. Et dans ce système d'échange de biens et des besoins, et dans ce système de création de valeur pour que je puisse avoir une telle valeur qui me permet d'obtenir tous les autres biens et les services dont j'ai besoin, se créer ce concept financier. Pourtant, il faut qu'on soit sincère. Sur 100% des sujets de prière que les gens ont quand ils viennent à l'église, sur 100% des sujets de prière qui montent à Dieu dans nos services, les sujets des ressources est un sujet plus récurrent. Même 70, même 90. Quelquefois 99%, que ces ressources soient financières ou non, mais l'homme souvent se tourne vers Dieu, et ça dans toutes les religions, se tourne souvent vers Dieu pour qu'il puisse suppléer à ses besoins et qu'il lui donne des ressources. Donc le sujet des finances n'est pas un sujet qu'on ne parlerait pas avec Dieu, parce qu'il se dirait « éloignez-vous de ces choses de la terre, parlons des choses d'en haut ». Non, pas du tout. Parler finances, parler d'argent, parler des ressources, parler de ce que Dieu nous a donné comme ressources financières est une chose totalement logique, normale dans la parole de Dieu. Si bien que Christ, venu accomplir une mission céleste sur la terre, ne s'est pas empêché d'avoir avec lui quelqu'un qui s'occuperait des finances et des comptabilités, quoique finalement étaient devenus les traîtres. Mais ils avaient besoin de ressources et de les gérer de la bonne manière, si bien que les autres apôtres savaient quand les ressources étaient mal utilisées. Il disait, la Bible dit, lorsque Judas, voilà, il est choqué du fait que cette femme a cassé le vase d'albâtre et puis a répandu le parfum. Voilà, il dit, mais on aurait dû vendre ça et donner l'argent aux pauvres. Et la Bible dit, il ne disait pas cela parce qu'il était en peine de pauvre, mais parce qu'il volait de l'argent. Jésus avait besoin des ressources. Jésus avait besoin des finances. En partant dans l'Ancien Testament, depuis l'Ancien Testament, les promesses de Dieu sur le peuple d'Israël, parmi les promesses d'Abraham, qui est devenu notre père dans la foi, se trouvent les signes forts de la présence de Dieu par la manière dont il va suppléer en matière des ressources. Dieu dit à Abraham, « Je te bénirai et je ferai de toi une source de bénédiction. » Et dans ce mot-là, « bénir », dans ce verbe, Dieu n'a pas mis seulement la promesse du Fils qui devait venir, il a aussi mis la promesse des ressources qu'il allait lui donner. Plus de moyens, plus d'animaux, plus de moyens pour pouvoir accomplir son objectif sur la terre. L'exemple de Job vient montrer un Dieu qui a tellement béni au point que le diable dit « S'il est comme ça, c'est parce qu'il n'a rien à te demander. Tu lui as tellement donné, tellement de choses, c'est pourquoi il est là, il est à fond dans les histoires de Dieu. Si je le récupérais ses moyens, et tu verras que ça changerait son engagement. » Dieu sait que nous, sur la terre, les moyens sont là, ça nous aide, ça nous permet dans notre engagement avec Dieu de se rendre compte que Dieu prend soin de nous. Mais ce ne sont pas les finances qui garantissent notre relation avec Dieu. Et c'était ça l'épreuve de Job. Finalement, Dieu a dit non, c'est pas parce que je lui ai tout donné qu'il m'aime. Prends tout ce que tu veux, tu verras qu'il continue à m'aimer. Nous, chrétiens, par crainte d'être tellement attachés à l'argent, on s'en éloigne, on n'en parle pas. Comme ça, j'aime les seigneurs. Mais après, quand les seigneurs viennent et qu'on doit converser, on ne parle que d'argent. Dieu, donne-moi pour les universités, donne-moi pour ceci, donne-moi. Même quand on ne dit pas à Dieu, Seigneur, donne-moi l'argent, la demande qu'on a placée est une demande financière. Et on devrait ne pas en être dérangé. C'est naturel, c'est normal. À qui voudrais-tu aller demander si ce n'est pas à ton Père qui est dans les cieux? Jésus, en nous apprenant à prier, nous dit que nous devions demander à lui notre pain quotidien. Il dit que c'est vers le Père que nous devons nous adresser, nous présenter, lui dire « Papa, on a besoin de manger. Papa, on a besoin d'argent. » Mais qu'est-ce qu'on peut apprendre ensemble comme principe lorsque finalement le Père nous donne ces moyens-là? De l'argent. Dieu nous donne de l'argent. Comment on les gère? Pour devenir un bon gestionnaire des finances, il nous faut bâtir une mentalité. Il faut bâtir une façon de réfléchir. Et c'est ce qu'on va faire tout de suite. Il faut qu'il y ait un paradigme mental qui te permette d'être équilibré face aux finances. Oui, d'autres préfèrent appeler les finances tout de suite maman, quoique le sujet des mamans est beaucoup plus large. Ce n'est pas l'argent seulement, c'est plus que ça. Mais dès qu'on voit l'argent, dès qu'on pense à l'argent, maman, il y a des montants qui sont devenus diaboliques. Si on a 10 euros, 10 dollars, le Seigneur m'a béni. Si on en a 20, le Seigneur m'a visité. Si on en a 300, 500, Dieu m'a fait grâce. Quand on commence à en avoir 2000, 3000, le Seigneur m'a mis au large. Quand on commence à en avoir 100, 200, 4 millions, 20 millions, 3 milliards, on s'est dit, il a vendu son âme. Pourtant, les sujets des finances, Dieu nous en donne selon nos capacités et selon la mission qu'il nous donne d'accomplir. Et une chose avec le Dieu de la Bible, c'est quand tu sais gérer, il t'en donnera plus. C'est lui qui l'a dit. C'est lui qui a bien géré ce qu'on lui a donné avant, on lui donnera davantage. C'est lui qui a bien géré ce qui n'est pas à lui. Sera alors, on pourra lui donner ce qui est à lui. Qu'est-ce qu'on peut apprendre alors pour devenir des bons gestionnaires des finances que Dieu nous donne? Quelle mentalité développer? Alors, premier point. Ta générosité est la clé du bonheur. Ta générosité, mon frère, ta générosité, ma sœur, est la véritable clé du bonheur. Le bonheur n'est pas dans l'acquisition et dans la multiplication de moyens financiers. Ce n'est pas quand tu en as beaucoup que tu obtiendras le bonheur. Je vous assure, la voie qui prend le bonheur ne passe pas par la richesse. La richesse ne fait pas le bonheur. Quand le bonheur se promène, ce n'est pas la richesse qui va s'arrêter. Donc, le vrai bonheur est dans la générosité. Non pas dans l'acquisition, non pas dans le fait que tu en maintiennes, que tu en aies tellement pour toi. Tu dis ça, c'est à moi, ne touchez pas, c'est à moi. Non, c'est plutôt quand tu sais prendre ce qui est entre tes mains et devenir un distributeur, un intendant, un gestionnaire de ressources que Dieu a mis entre tes mains. C'est là que tu commences à vivre le bonheur. Surtout à le voir dans les yeux des autres. Surtout à voir comment ce qui n'avait pas autant d'importance pour toi, ce qui n'avait pas autant de valeur pour toi, ce qui était dérisoire, quand tu le mets entre les mains de quelqu'un d'autre, tu vois que ça lui donne le bonheur que seul le milliard te donnerait à toi. Tes dizaines peuvent donner le bonheur dans le cœur de quelqu'un d'autre, que toi tu attends que lorsque tu auras des milliards. La générosité est en réalité la véritable voie du bonheur. Et non pas l'acquisition de beaucoup de richesses, mais plutôt la façon de s'en libérer pour faire du bien aux autres. 2 Corinthiens chapitre 9, versets 7 à 8. 2 Corinthiens chapitre 9, versets 7 à 8. Que chacun agisse donc selon l'inspiration de son cœur et donne ce qu'il aura librement décidé, sans regret ni contrainte. Dieu aime celui qui donne avec joie. Il peut aussi vous combler de ses dons les plus divers. Ainsi, vous aurez en tout temps amplement ce qu'il vous faut et il vous restera encore du superflu pour toutes sortes de bonnes œuvres. Vous voyez ça? Paul est en train d'exhorter aux Corinthiens de participer à la contribution qu'on devait envoyer à Jérusalem. Il leur dit, je ne veux pas vous faire pression. Je vous ai donné des exemples de ceux de Macédoine et tout ça là. C'est juste pour vous montrer que ce sont des bons exemples. Je ne veux pas vous faire pression. Ce que je vous rappelle ici, donnez librement selon que les Seigneurs touchent votre cœur. C'est quand même un peu, ça me fait rire chaque fois quand les gens citent ce passage biblique pour ne pas donner. Il dit non, la Bible dit donnez librement comme selon votre cœur, donnez librement comment vous l'aurez décidé. Il dit ouais, mais justement, ce texte a pour but de nous encourager à donner, pas de nous décourager à le faire. Donner librement ne veut pas dire soyez libre de ne pas donner. Ça veut dire donner, mais librement. Le but c'est que vous puissiez apprendre à donner, mais à donner avec souplicité de cœur, avec conviction. Il dit donnez comment vous allez le sentir, selon que vous en aurez l'inspiration. Et il dit parce que Dieu il aime ceux qui donnent avec joie. C'est pas seulement ceux qui donnent, mais avec joie, l'attitude de cœur. Il insiste en disant, Dieu alors vous donnera suffisamment pour vous et il vous en restera du superflu pour toutes sortes de bonnes œuvres. Quand Dieu vise à vous donner, il ne vous donne pas que pour vous. Il vous en donne aussi au-dessus. Dieu tient compte du fait que vous devez non seulement être nourri, être enrichi, mais vous devez devenir un instrument de richesse pour les autres. Il vous donnera toujours une dose supérieure pour que vous puissiez aussi poser des actions et des bonnes œuvres. Luc chapitre 14, versets 13 à 14. Non, si tu donnes une réception, prends l'habitude d'inviter les pauvres, les estropiés, les infirmes, les aveugles. Si tu fais cela, tu peux connaître le vrai bonheur, précisément parce que ces gens-là n'ont pas la possibilité de te rendre l'appareil. Dieu te récompensera lorsque les justes ressusciteront. Jésus-Christ arrive en fait quelque part et il va enseigner à celui qui a organisé la fête la meilleure façon d'être dans le bonheur. Il dit le vrai bonheur, c'est pas que tu organises une fête et tu invites des gens qui peuvent aussi t'inviter à leur fête. Ça sert à rien. Le vrai bonheur, c'est quand tu exprimes ta générosité envers des personnes qui sont pas capables de te rendre l'appareil. Alors, il lui fait une liste des personnes démunies de la société à l'époque. Il parle des pauvres, les estropiés, les infirmes, les aveugles. Il dit, ceux qui ne sont pas dans les moyens, ne sont pas capables de te rendre l'appareil, lorsque tu leur donnes, tu exprimes un degré de générosité qui est un vrai bonheur. Le mot apparaît là. C'est là que tu connaîtras le vrai bonheur. Alors, rappelle-toi très bien, dans la façon de gérer tes richesses, sache-le, que le vrai bonheur est dans la générosité. Deuxièmement, Dieu n'est pas contre l'épargne. La deuxième vérité à saisir lorsqu'on veut devenir un bon gestionnaire, la deuxième chose qu'il faut placer dans la mentalité de bon gestionnaire des finances que Dieu nous donne, c'est que Dieu n'est pas contre l'épargne. Oui, je le sais. Très souvent, on aime sortir le texte qui dit « Celui qui épargne à l'excès s'appauvrit ». Bien sûr! Quel mot est excès? C'est drôle de voir que lorsqu'on parle des problèmes comme le péché, comme la mort, d'autres sujets comme ça, il est facile que les chrétiens remarquent le verbe qui est conjugué, que c'est continuel, de remarquer les adjectifs qui sont placés, les adverbes, de voir que c'est continuellement que ça doit se faire, ou de voir que c'est excessif, ça parle de l'excès de la chose. On sait que quand Jésus dit « si ta main te fait pécher, coupe-la », on sait qu'il ne parle pas de couper littéralement. Mais c'est drôle de voir que lorsque les textes ont trait à la gestion des finances, on dirait qu'on est perdu. L'amour de l'argent, racine de tous les maux, on dit non, l'argent, racine de tous les maux. Et le mot « amour » est parti où? Et ici, ce que j'essaie de vous expliquer ici, c'est la Bible dit « épargner à l'excès », l'excès disparaît, c'est épargner qui devient le problème. Non, 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 non. connaissons très bien où se trouve la faute, à partir de quelle mesure. L'épargne est une méthode divine. Dieu a donné cela à Joseph pour sauver le peuple d'Égypte. Il dit, épargnez, mettez de côté pendant la saison les 7 ans d'abondance et ça vous sera utile pendant les 7 ans de disette. Proverbe chapitre 21, verset 20. Dans la demeure de l'homme sage, on trouve des précieux trésors et des réserves d'huile. Mais l'insensé dilapide ce qu'il a. Proverbe dit, le sage dit ceci. Quand vous allez dans la maison de quelqu'un d'intelligent, de sage, vous trouverez qu'il a épargné. Vous trouverez qu'il en a encore. Il parle de précieux trésors et des réserves d'huile. C'est intéressant. Il y a des trésors qui seront moyens de monnayer. C'est comme de l'argent. Et il y a de l'huile qui sont des ressources naturelles qu'il garde. Il ne garde pas que de l'argent parce qu'il y a des problèmes qui arrivent et l'argent ne sait rien en faire. Il a de la provision aussi matérielle. Épargner et garder des provisions sont une très bonne façon de gérer ses finances. Et ici, le proverbe dit, quand vous allez plutôt dans la maison de l'insensé, il a déjà tout dilapidé. Il achète aujourd'hui pour tout manger. Il achète aujourd'hui pour tout consommer. Il ne garde rien. Il ne sait pas épargner. À peine qu'il a son salaire, il passe directement dans les achats. Ce n'est pas la faute à Dieu. Certains chrétiens s'approchent du Seigneur. Ils ont... Ah, Dieu est bon, vous savez, Dieu. Dieu est bon, Dieu, il est tellement patient envers nous. Vous entendez du sujet des prières de quelqu'un, vous vous dites, j'entends ces sujets des prières et je réfléchis en gestionnaire des finances. Les types de demandes qu'il est en train de faire. Si Dieu lui en donne l'argent, il n'épargnera rien. C'est qu'il est en train de demander à Dieu, donne-moi pour que ça passe, que c'est de l'autre côté. Donne-moi pour que j'achète. Donne-moi pour que j'aille enrichir quelqu'un d'autre en prenant quelque chose qui est passive. Donne-moi les moyens pour que je m'achète quelque chose qui ne me sera même pas utile et qui ne montrera même pas en valeur. En fait, il dit, donne-moi pour que j'aille dilapider. Dieu est un investisseur et un père responsable. Il ne va pas te donner comme ça. Commence à avoir un raisonnement d'un bon gestionnaire des finances et tu te rendras compte que Dieu te donnera tellement à gérer. Proverbe 6 à 8. Toi qui es paresseux, va donc voir la fourmi, observe son comportement et tu apprendras la sagesse. Elle n'a ni surveillant, ni contremaître, ni chef. Durant l'été, elle prépare sa nourriture. Au temps de la moisson, elle amasse ses provisions. Et toi, paresseux, combien de temps vas-tu rester couché? Quand donc sortiras-tu de ton sommeil pour te lever? Le sage donne l'exemple de la fourmi et comment la fourmi agit d'après les saisons. La fourmi sait qu'à cette saison, c'est le moment de amasser, d'épargner parce qu'il va faire froid et je ne pourrai plus me promener. Et quand il fera froid et que j'irai me cacher dans un endroit pour la chaleur, à cet endroit, il faut que j'aie des moyens pour consommer. L'épargne est divin. Dieu n'est pas contre l'épargne, mes amis. Et vous devez avoir ça dans la mentalité des gestionnaires de finances. 3. Ne vole pas la part de Dieu. N'oubliez pas, nous sommes en train d'apprendre la mentalité à développer pour être un bon gestionnaire des finances que Dieu donne entre nos mains. Si le premier point que j'ai dit, c'est la générosité est la clé du bonheur, et le deuxième point, c'est que Dieu n'est pas contre l'épargne, le troisième point, c'est ne vole pas la part de Dieu. Quand Dieu te donne, il te donne quelque chose pour toi, pour les autres et pour lui aussi. Ça signifie ceci. Dieu te donne pour toi et il te donne le superflu avec l'instruction claire. J'aimerais que tu puisses donner ça aux autres. Mais il te donne aussi sa part. Ça signifie ramène-moi ça. Ramène-moi cette part-là. Je pourrais en disposer comme je veux. Tu n'as pas besoin de savoir à qui ça va faire le bonheur. Toi, ramène ça juste à l'endroit où je t'ai demandé. De là, je vais m'en occuper. Ces trois parts viennent dans nos gestions de finances. Ces trois parts viennent dans nos finances. Ma part, la part des autres qui passe par moi et la part de Dieu. Je ne sais pas comment il va utiliser ça, mais c'est sa part. Et n'oubliez jamais que dans les finances qu'il y a entre vos mains, il y a la part de Dieu, il y a votre part et la part de la générosité. Chaque fois que Dieu a besoin de ses moyens, ça ne passe pas toujours par la générosité. Oui, deux fois ça passe par quelque chose qu'il y ait. Pas deux fois. En fait, la part de Dieu a un sens plus légal. que libre. Je vais essayer de formuler ça. La part de Dieu est une obligation et non pas juste une générosité volontaire. La part de Dieu, ce n'est pas ce que tu veux, c'est ce qu'il a ordonné. C'est ce qu'il a dit qu'il doit en être ainsi. Donc, la part de Dieu dans la Bible apparaît dans des termes comme offrande, dîme, action de grâce. Il y a des actions qu'il faut poser envers le Seigneur quand il s'est manifesté financièrement pour nous. Et pas seulement financièrement, il peut s'être manifesté dans un autre domaine et nous apportons dans sa maison ces choses-là. Ne vole pas Dieu. Tu vas en souffrir. C'est là que tu te rendras compte que ta part et la part de la générosité que tu utilises là, les deux autres parts ne valent rien sans la part de Dieu. Si la part, si Dieu n'est pas dans la chose, même toi-même, tu n'auras plus rien. Alors, vole pas la part de Dieu. Proverbe 3, 9 à 10. La Bible dit, honore l'Éternel avec tes biens et avec les prémices de tout ton revenu. Alors, tes greniers seront remplis d'abondance et tes cuves regorgeront de moût. Dieu fait la promesse au peuple d'Israël, promesse qu'il tient jusqu'aujourd'hui. Jusqu'aujourd'hui, mes frères, promesse que Dieu tient jusqu'aujourd'hui. Rien à voir avec le sacrifice de Christ à la croix. Non, rien à voir. Je ne vais pas parler de ça maintenant. Mais rien à voir avec le fait que Jésus ait donné de son sang, qui est un sacrifice de libation, que Jésus-Christ est venu accomplir. Ça, c'est plus que juste, ce n'est pas que des sacrifices ici. C'est une ordonnance divine qui permet de gérer le peuple. La dîme n'était pas seulement une instruction lévitique rituelle, mais c'était aussi une instruction financière et une instruction d'économie. Dieu, en donnant ces instructions, était en train de gérer l'économie d'un peuple qui n'était qu'un ensemble des familles, qui est devenu des clans, qui est devenu un peuple, qui est sorti du milieu d'un autre peuple et qui devait avoir un système économique. Et il prenait en charge ceux qui sont à temps plein à son service. Il pouvait ainsi récupérer les moyens et les redistribuer autrement, comme tout autre État le fait. La part de Dieu n'y touchait pas. Il a pris des engagements. Je ne sais pas si tu le sais, mais Dieu a pris des engagements avec des gens. Et il ne va pas faire tomber l'argent du ciel. Il leur a promis qu'il leur donnerait les salaires. Il leur a promis qu'il leur donnerait de quoi. Et En promettant comme ça, il s'est dit, quand toi, tu donneras ta part, alors il apprendra pour donner là-bas. Imagine-toi que tu collabores avec Dieu à ces niveaux-là. Dieu peut aller faire promesse à des gens parce qu'il a confiance que tu donneras ta part à temps et qu'il appuisera là-bas cette part pour donner aux autres. Tu deviens un si bon collaborateur de Dieu. Ça veut dire, quand Dieu a besoin de plus, qu'est-ce qu'il fait? Il t'en donne à toi plus parce qu'il sait que tu iras déposer à l'endroit où il le fallait. Vole pas la part de Dieu. Malachie 3, 8 à 10. Un homme trompe-t-il Dieu? Car vous m'avez trompé. Et vous dites, en quoi t'avons-nous trompé? Dans les dîmes et les offrandes. Vous êtes frappé par la malédiction et vous m'avez trompé. La nation tout entière a prêté à la maison du trésor toutes les dîmes, afin qu'il y ait de la nourriture dans ma maison. Mettez-moi de la sorte à l'épreuve, dit l'Éternel des armées. Et vous verrez si je n'ouvre pas pour vous les écluses des cieux, si je ne répands sur vous la bénédiction en abondance. Dieu dit, quand vous ramenez ce qui m'appartient, ramenez ma part, là où j'ai dit que vous puissiez ramener. Dieu ne dit pas, ramenez ça sur une montagne, quand vous aurez brûlé ça, aucun homme n'y touchera. Non, il dit, ramenez à la maison du trésor. C'est-à-dire que les gens se promènent, ils avaient leur bien et ils savent que c'est dans cette maison-là. Mais est-ce que Dieu mange ça? Est-ce que Dieu utilise ça? Non. Dieu veut que ça soit à cet endroit parce qu'il va l'utiliser d'une certaine manière. Le plus important, c'est pas que Dieu consomme. Dieu consomme ton obéissance. Il ne consomme pas tes biens. Ah oui, je vais répéter ça. Dieu consomme ton obéissance. Il ne consomme pas tes biens. C'est pour cette raison que Abraham n'a pas eu besoin de tuer Isaac. Quand il a obéi dans son cœur, Dieu dit « Stop, c'est bon, j'ai eu ce que je voulais ». C'est l'obéissance de mettre Dieu en avant dans tes finances, de lui rendre sa part à temps selon qu'il est prévu. C'est ce que Dieu consomme. Et c'est ce que tu auras donné là, il a une autre façon de le faire consommer à qui il voudrait qu'il puisse consommer. Et ça te concerne plus, ça c'est à lui de faire ce qu'il veut, comme il veut. Alors, Dieu va consommer ton obéissance, non pas seulement tes biens. Alors, la chose la plus importante à faire, ne vole pas Dieu. Quatrièmement, faites attention au crédit et au cautionnement. Faites attention au crédit et au cautionnement. J'ai une liste de proverbes à lire. Proverbe 22, 7. Le riche domine sur le pauvre et celui qui emprunte est esclave de celui qui prête. J'aimerais ici dire que si vous voulez bien gérer vos finances, s'il vous plaît, la Bible vous demande de faire attention à la manière d'aller emprunter et de prendre de crédit chez les gens. Deuxièmement, de faire aussi attention à la manière de vous mettre en caution. Quelqu'un veut emprunter quelque part et vous, vous servez de caution. Faites très attention avec ces deux choses. La Bible dit ici dans Proverbe que la main, le pauvre est dominé par le riche parce que le pauvre va emprunter chez lui. Parce que l'esclave, on devient esclave de celui chez qui on va emprunter. Proverbe 11, 15. Celui qui cautionne autrui s'en trouve mal, mais celui qui craint de s'engager est en sécurité. Quand tu sers de caution, quelqu'un va emprunter quelque part, dis-lui seulement, dis-lui qu'il te donne, comme il te connaît, hein, dis-lui vraiment, il va me donner. Je finirai par remettre. Tu vas là-bas, tu dis non, lui c'est quelqu'un que je connais, donne-lui, c'est pas grave. La Bible dit, ah, quand tu fais ça, tu regretteras un jour. Proverbe 17, 18. L'homme dépourvu de sens prend des engagements. Il cautionne son prochain. Vous voyez ça? Il dit, celui qui est fou va prendre des engagements et dit, ben écoute, vraiment, moi je t'assure, vraiment si un problème vient me voir, mais c'est quelqu'un de fiable. Avant de dire ça d'un être humain, il faut faire très attention. Proverbe chapitre 22, 26, 27. Ne sois pas parmi ceux qui prennent des engagements, parmi ceux qui cautionnent pour des dettes. Si tu n'as pas de quoi payer, pourquoi voudrais-tu qu'on enlève ton lit de dessus toi? Ne sois pas ceux qui vont non seulement servir des personnes cautions, mais aussi aller donner des cautions en vue d'une dette. Parce que, Proverbe dit, on dirait qu'en faisant ça, tu n'es pas conscient que tu es en train, en fait, de te livrer toi-même. Et demain, tu n'auras même pas où dormir à force de crédit. Si tu veux bien gérer les finances, gère très bien les crédits. Cette carte-là, que tu appelles carte de crédit, c'est sur ton lit que tu es en train de... C'est ton lit que tu promènes dans ta poche. Chaque fois que tu swaps, tu es en train de swapper ta maison. Il faut faire très, très attention, être intelligent dans la façon de gérer ça. Et enfin, 5, sois riche de contentement. La véritable richesse sur la terre, c'est le contentement. Philippiens chapitre 4, versets 11 à 13. Ce n'est pas en vue des besoins que j'ai dit cela, car j'ai appris à être content de l'état où je me trouve. Je sais vivre dans l'humiliation, je sais vivre dans l'abondance. En tout et partout, j'ai appris à être rassasié et avoir faim, à être dans l'abondance, être dans la disette. Je puis tout par celui qui me fortifie. Voyez ça encore. 1 Timothée 6, 6 à 8. C'est en effet une grande source de gain que la piété avec le contentement. Car nous n'avons rien à porter dans ce monde. Et il est évident que nous n'en porterons rien. Nous pouvons rien remporter. Si donc nous avons la nourriture et les vêtements, cela nous suffira. Si tu veux bien gérer les finances, contente-toi de ce que tu as. Le contentement est la plus grande bénédiction. Retiens ces deux choses maintenant qu'on se sépare. Tu vaux ce que tu es et non ce que tu as. Ta valeur n'est pas dans tes biens. Elle est dans ton caractère. Tu vaux ce que tu es et non pas ce que tu as. Et deuxièmement, le but de la vie n'est pas de gagner de l'argent. Le but de la vie, ce n'est pas se faire de l'argent. Tu ne vis pas pour gagner plus. Tu vis pour glorifier le Seigneur. On vient de démarrer un sujet passionnant. Apprendre à gérer une ressource. Aujourd'hui, c'était l'argent. Demain, ça sera quoi? On se voit demain alors. Dieu vous bénisse.
Cette émission a pu être réalisée grâce au précieux soutien des partenaires d'EMCI TV. Retrouvez toutes les émissions de Teach sur emcitv.com.